Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio Audible. Polar, roman ou science-fiction, téléchargez et écoutez vos livres audio sur l'appareil de votre choix. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Gengis Khan, l'homme qui aimait le vent, c'est le titre du roman historique que José Fraîche vient de faire paraître chez Ixo. Il est cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir José Fraîche pour évoquer le maître du plus grand empire jamais constitué par un homme. Son récit romancé, certes, mais très historique, vous allez voir, parle de la jeunesse du conquérant, mais c'est toute son existence et c'est son héritage que nous allons ressusciter ensemble cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Benjamin sur l'origine des liens entre la France et les chrétiens d'Orient.
Voilà une question cuisante en ce moment. Pour l'heure, c'est vers un autre Orient que je vous propose de diriger nos pas.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Existe depuis un quart de siècle environ un document passionnant qui se présente sous la forme d'un vaste schéma en couleur intitulé « Tableau synoptique de l'histoire du monde » et publié sous la direction de Louis-Henri Fournet. Nous l'avions dans le bureau ici à Europe 1, ce grand panorama, et pour tout vous dire, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je vous le recommande en tout cas, cet aperçu saisissant de l'histoire mondiale avec en abscisse les différentes zones géographiques et en ordonnée l'échelle des siècles. Ça permet de saisir d'un coup d'œil l'importance relative des différentes cultures et civilisations, et surtout ça nous en montre la nature. Ça, c'est assez étonnant. Certains empires, je pense aux vieux empires égyptiens ou à la France capétienne par exemple, tout ça s'inscrit en hauteur, d'une manière très verticale, c'est-à-dire que ce sont des empires bien contenus dans leurs frontières et qui défient le temps et les siècles. Mais il y a d'autres empires qui, eux, s'étendent horizontalement d'une manière saisissante. L'Empire romain, bien entendu, l'Empire napoléonien, qui pour sa part n'est qu'une ligne assez mince et très étendue. La plus étonnante de ces barrettes horizontales, si je puis dire, et qui figure en jaune sur le tableau de Fournet, c'est, je pense qu'on doit pouvoir dire sans conteste, que c'est l'empire fugace mais très étendu de Gengis Khan. Rien qu'à ce titre, le souverain mongol méritait bien que José Fraîche lui consacra une saga. Il faut se faire une idée de ce qu'est cette Mongolie dont il part, son Heartland, hein, le point de départ. Imaginez un pays qui est grand comme trois fois la France à peu près, qui est séparé de la Sibérie au nord, de la Chine au sud, par des barrières montagneuses et par de hautes vallées, et qui se présente comme cette espèce de steppe infinie, bien entendu, avec des variations climatiques terribles. 70 degrés de différence entre les températures de l'été et celles de l'hiver, bien entendu. À l'intérieur de ces espèces de frontières naturelles, dans cette Mongolie originelle, le chef Yesugei, on est donc dans les années 1150 de notre ère, ce chef Yesugei a réussi à fédérer un certain nombre de hordes, un certain nombre de clans, si vous voulez. Il les tient sous sa houlette, et il les tient parce qu'il leur distribue des butins. Il leur permet d'arraisonner des caravanes de voyageurs et de marchands, bien entendu, d'abord, mais aussi de faire des razzias sur un certain nombre de villes. Et tout ça permet à la horde de Yesugei de s'enrichir constamment. Les différents chefs mongols sont attirés par cette espèce de super chef, si je puis dire, capable de tenir tête au potentat chinois, un homme qui est à la fois un très bon diplomate, un excellent stratège puisqu'il mène admirablement l'assaut contre un certain nombre de places, mais qui est aussi un administrateur. Et les guerriers qui travaillent avec lui sont reconnaissants de cette espèce de justice immanente qu'il a l'air de posséder et qui lui permet de distribuer justement de manière relativement équitable les différents butins de conquête. Ce Yesugei a eu un fils en 1162. C'est sa femme Eulun qui lui a donné un premier héritier du nom de Temujin, qui a été élevé sous la yourte, hein, bien entendu, sous la tente, dans les chariots, car on est dans une population nomade. Il faut vraiment avoir ça constamment à l'esprit. Ce sont des gens qui se déplacent, qui poussent devant eux d'assez vastes troupeaux, des troupeaux qu'on ne peut pas se permettre de laisser longtemps au même endroit parce qu'il n'y aurait pas suffisamment pour les nourrir. Donc on les pousse constamment pour les amener à manger un peu d'herbe un peu plus loin, si vous voulez. Ces guerriers nomades, Yesugei les tient donc d'une main de fer jusqu'au jour où, on est en 1175, ils tombent malades et ils meurent sans avoir eu le temps de bien organiser sa succession. Et ça va être terrible parce que, alors que son épouse Eulun est en train de le pleurer comme il se doit, et il faut lire les descriptions que José Fraîche nous donne de tout ça, car on est vraiment avec eux, je puis dire, on partage leur quotidien. On lui annonce qu'un certain nombre des guerriers de son défunt mari Yesugei, un certain nombre des guerriers sont déjà en train de s'en aller. Ils ont pris des chevaux avec eux. En fait, la horde est en train de se désagréger. Alors, on voit cette épouse qui court hors de la yourte, qui saisit le cheval du défunt et qui va invectiver ces traîtres, en quelque sorte, les adjurant de rester fidèles à l'héritage de son époux. Elle va pas faire grand chose, elle arrive à en réunir, si vous voulez, un certain nombre, quelques-uns, toute la jeunesse de notre héros, qui s'appelle encore Temujin, toute cette jeunesse va se faire dans ce climat, disons-le, assez délétère. On voit peu à peu la horde continuer de s'émietter, et c'est à lui qu'il appartient de réconforter cette mère complètement angoissée par la situation. Lui-même va être capturé, c'est un des passages très forts du roman, du récit, voilà, c'est le terme. Il est capturé alors qu'il a 15 ans et on va lui faire subir une peine qui est à la fois très douloureuse et très humiliante, puisqu'on lui met la kangue. Vous savez, la kangue, c'est cette espèce de carcan que les Chinois de la même époque réservaient aux condamnés à mort. On vous colle la tête et les poignets, enfin le cou et les poignets dans une espèce de planche qui est rudement rivée, qui est lourde, qui vous blesse à mesure que vous marchez, qui est très pénible, bien entendu, qui vous entrave complètement. Et on voit ce pauvre Temujin trimballé pendant des distances immenses. Il est épuisé, il est à bout de souffle. On pense qu'on va finir par le tuer de cette manière, mais comme il est robuste et comme il est fils de roi d'une certaine manière, on se dit qu'on va pouvoir en tirer un bon prix, qu'il ferait un excellent esclave. Finalement, il va réussir, et je ne veux pas trop déflorer l'intrigue de José Fraîche, nous passerons assez vite sur toute cette extraordinaire aventure, mais il va finir par s'en sortir, vous l'imaginez bien, puisque c'est lui dont nous parlons, c'est le futur Gengis Khan. Il réussira à se débarrasser de sa kangue, et bientôt, il réussira surtout à se venger.
Original du film Yurga sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand vous raconte l'incroyable destin de Gengis Khan jusqu'à 15h sur Europe 1. Il revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h
sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de Gengis Khan. Alors avant de devenir le souverain universel, il s'appelle Temujin, il a été capturé à l'âge de 15 ans et il souhaite maintenant se venger.
Oui, alors il va arriver à reconstituer autour de lui une petite horde. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait connu du temps de son père. Mais en tout cas, il a avec lui un certain nombre de jeunes guerriers avec lesquels il monte de manière assez aventureuse, il faut bien le dire, des opérations de raids, des petits raids, si vous voulez, pour essayer de s'enrichir. Et il va créer très tôt des liens de fidélité avec un certain nombre de ceux qui plus tard deviendront ses lieutenants d'une certaine manière. Sauf qu'un jour, parce que tout ça c'est une vie extrêmement compliquée, extrêmement aventureuse, et un soir il trouve, en rentrant au campement, tous ses chariots culbutés, ses animaux volés, et il a perdu celle qui est son épouse aimée et adorée. Et Dieu sait que Gengis Khan plus tard aura beaucoup de concubines, mais il restera toujours globalement fidèle à cette fameuse Börte, je ne sais pas comment, enfin on va dire Börte. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de cette langue mongole avec José Fraîche, qui est assez imprononçable et assez difficile à cerner d'une certaine manière. Donc en attendant, Börte est parti, et pour Temujin ça va être un moment terrible. Il décide de la retrouver. Si ça lui prend des semaines, eh bien ça prendra des semaines ou des mois, mais il va littéralement écumer la steppe, rôder à la poursuite des ravisseurs, et après des mois de recherche, il parvient à les assaillir, à les mettre en déroute. Börte est saine et sauve. Le problème, c'est qu'il la retrouve enceinte. Alors, comment Temujin va-t-il accepter la chose? Eh bien, il considère qu'il est le responsable de ce désastre. C'est lui qui n'a pas su la protéger. Elle n'a fait que subir ce qu'on lui a imposé, et il ne fera pas vraiment de reproche à sa jeune épouse. En vérité, c'est même plus fort, c'est que le garçon qui va naître quelques temps plus tard, Juchi, je sais pas comment on peut prononcer ça, ce garçon, il le considère littéralement comme son fils, et pendant un temps au moins, il le considérera comme son héritier. C'est très important d'être l'héritier de Temujin maintenant, parce que plus les années passent, et plus il est lui-même puissant. Alors attention, sa famille lui cause beaucoup de problèmes, notamment un de ses cousins. Il y a une dispute et une guerre assez extraordinaire avec un de ses cousins qu'il finit par isoler de la horde, par le pousser dans des retranchements jusque dans les montagnes, où il finit par se réfugier avec 5 hommes. Et un jour, les hommes en question vont livrer le cousin à Temujin. C'est Alexandre de Saint-Phal qui raconte la scène. C'était la première fois depuis 12 années que les deux hommes se revoyaient, nous dit Alexandre de Saint-Phal. Et le cousin considère à partir de ce moment-là qu'il est à la merci de Temujin et qu'il mérite lui-même la mort. Comment peux-tu accepter de tels services? Demanda-t-il. Reconnaissant le bien fondé de la remarque, Temujin ordonna d'arrêter les traîtres et de les décapiter sur le champ. Donc voilà, les pauvres types qui avaient livré le cousin, déjà eux, dans un premier temps, sont tués. Mais une fois justice faite, il s'adresse à son cousin. « Jadis, nous étions comme les deux brancards d'un même chariot, lui dit-il. » C'est ce que nous dit la chronique en tout cas. « Tu m'as abandonné. Maintenant te voici revenu. Soyons unis comme autrefois. Vivons côte à côte. Nous avons oublié nos souvenirs de jeunesse. Faisons-les revivre. Quand nous nous rencontrions sur le champ de bataille, je sais le chagrin qui t'étreignait le cœur pour l'avoir éprouvé moi-même. » Alors, Temujin a fini son petit discours. Il ordonne de libérer le prisonnier. Et là, c'est le cousin lui-même qui n'accepte pas la situation et qui réclame en quelque sorte la mort. Temujin se retira sous sa tente et dit à ses fidèles « J'ai voulu le prendre comme compagnon, il s'est dérobé. J'ai maintenant voulu lui épargner la vie, il s'y refuse. Eh bien, mettez-le à mort et enterrez-le avec honneur. » Alors, ce sont des mœurs qui nous paraissent d'une rudesse folle, mais ce n'est rien en comparaison de ce qui s'annonce. Car très bientôt, sous le titre de Gengis Khan, le plus puissant des Khans en quelque sorte, ce Temujin va devenir un véritable conquérant qui s'attaque non plus seulement aux caravanes de marchands ou à de petites villes un peu éloignées de l'empire chinois, mais qui va s'attaquer dans un premier temps au peuple des Ya, qui est un peuple semi-nomade et qui vivait dans l'actuelle province du Shaanxi, hein, donc du côté du Tibet, si vous voulez, entre la Chine et le Tibet, et qui peu à peu va s'attaquer à la Chine elle-même. Une Chine qui, à l'époque, il faut bien en être conscient, est séparée en deux royaumes, entre une Chine du Nord et une Chine du Sud. Eh bien, Gengis Khan est devenu suffisamment puissant pour s'attaquer aux Chinois. Il faut l'imaginer maintenant au milieu d'une horde très imposante, avec tous ses combattants, avec ses lieutenants, avec ses concubines, etc. Est-ce qu'il va attaquer d'emblée la Chine? Il a la possibilité de le faire, évidemment. Ce serait même ce qui paraîtrait le plus évident. Il a aussi la possibilité d'aller s'attaquer à ce qui est le cœur marchand, le cœur de la richesse de l'époque, c'est-à-dire l'immense empire Perse. Or, la Perse, on peut l'attaquer par bien des voies. Est-ce qu'il va choisir une voie maritime? Est-ce qu'il va choisir une voie terrestre? On connaît le choix de Gengis Khan. Bien entendu, c'est le chemin terrestre qui va être le sien.
L'incroyable destin de Gengis Khan, voilà l'histoire que vous réserve aujourd'hui Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, envoyer vos messages et poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, sur les traces de Gengis Khan. Alors le jeune Temujin est devenu maintenant un grand chef, puissant, tellement puissant qu'il peut attaquer la Perse.
Eh oui, en fait, il lui faut dans un premier temps soumettre les territoires qui sont le plus proches. Et il va s'attaquer à ce double empire chinois. Alors qu'il est certes au sommet de sa puissance, mais dans une situation un peu délicate du point de vue de sa succession. Car il ne faut pas oublier que son premier fils, Jochi, est un petit bâtard. Hein. Vous vous rappelez les circonstances de la naissance de cet enfant. Alors, il va lui proposer « Veux-tu être mon successeur ?» Et vous imaginez que les frères qui suivent, qui eux sont des enfants légitimes, ne se laissent pas faire. Et notamment le deuxième, le cadet, va s'emporter contre son frère, contre son père. Et il y a cette décision assez extraordinaire de Gengis Khan qui décide que finalement ce sera son troisième fils qui sera son héritier légitime. Il est, après tout, c'est un moyen en quelque sorte de rétablir pendant un certain temps une certaine concorde dans la famille. Après tout, tous ses enfants sont bien les fils de Berthe, qui reste cette femme qui va l'accompagner jusqu'à la fin. Au début du printemps de 1220, Gengis Khan, suivi de toute sa horde et bien sûr de ses quatre fils, va se mettre en route. La cavalerie mongole est très impressionnante. Elle va droit à la capitale de Nig-Ya. C'est là que sont accumulés les formidables trésors de la dynastie régnante. Sauf qu'en vérité, ben là encore, il n'y a pas de... on peut pas dire que ce soit un succès extraordinaire pour Gengis Khan. D'abord, il y a une inondation terrible. Il y a des défauts de commandement et de coordination considérables. L'adversaire n'en offre pas moins une rançon énorme. Et cette rançon, elle va jouer un rôle très important parce que Gengis Khan a l'intelligence de la répartir entre tous ses hommes, entre tous ses grands, entre tous ses lieutenants, sans rien garder pour lui-même, en faisant preuve dans cette circonstance d'une sorte d'abnégation extraordinaire qui va définitivement lui valoir la fidélité de ses hommes. On peut dire que ce sont 200 000 cavaliers qui, en 12 1908 s'attaque à la Chine. Il faut les imaginer au pied de la grande muraille. Les Chinois du Nord sont épouvantés par l'arrivée de cette marée humaine extraordinaire. Alors bien sûr que les Mongols sont arrêtés par les fortifications des villes et par toute l'organisation chinoise, mais Gengis Khan va contourner la difficulté. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller s'écraser littéralement sur les fortifications chinoises, il va décider de négliger les villes et de pénétrer dans le cœur même du pays, de contourner les places fortes, si vous voulez, et d'aller détruire la Chine de l'intérieur. Ce sont vraiment... Alors, on n'imagine pas aujourd'hui ce qu'ont pu être les raids, les razzias de cette horde mongole. Ce sont à chaque fois des meurtres perpétués par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Ce sont de véritables massacres, bien entendu. Et la réputation de Gengis Khan est à la mesure de cette extraordinaire violence sur laquelle nous allons revenir. Et puis, lorsque Gengis Khan entre quelque part, et il l'avait prouvé en Perse notamment, en détruisant complètement Boukhara, en détruisant la grande bibliothèque avec toutes ses merveilles, en mettant Samarcande à sac, quand Gengis Khan entre quelque part, c'est pour piller, détruire, violer, écraser. On peut dire que c'est un homme sans aucune forme de pitié. On est d'autant plus étonné de le voir, à côté de cela, se montrer relativement sensible lorsqu'il est question de ses proches et de sa famille. Nous y venons dans un instant. José Fraîche, vous avez raconté la jeunesse de Gengis Khan. Nous allons avec vous voir également ce qui s'est passé par la suite et quelles ont été ses grandes conquêtes et jusqu'où l'empire des Mongols s'est étendu.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi à la découverte de Gengis Khan. Alors, vous recevez Franck Ferrand cet après-midi, José Fraîche, écrivain et romancier, spécialiste de la Chine, auteur de Gengis Khan, l'homme qui aimait le vent, paru chez Ixo. Et le second volet sortira le 21 janvier prochain, donc c'est une date à retenir.
Et oui, là pour l'instant c'est la jeunesse et puis ensuite on verra la maturité de ce conquérant sans pitié. J'avais ce souvenir d'enfance ou d'adolescence d'un Gengis Khan qui voyait, au moment du siège de Samarcande je crois, il voit une femme en train d'avaler des perles, c'est-à-dire qu'elle essaie de cacher les bijoux qu'elle avait, et alors il ordonne qu'on éventre tous les habitants de Samarcande pour s'assurer qu'on n'a pas détourné de son butin des bijoux. C'était un homme d'une effroyable, très sanguinaire, et vous nous le présentez comme un garçon extrêmement sympathique, José Fraîche.
Sympathique, je sais pas si on peut
pour
aller jusque-là.
En tout cas, dans le premier tome, il est sympathique.
En tout cas, c'est un être qui a un destin tout à fait exceptionnel. C'est évidemment, vous l'avez dit à juste titre, un tyran sanguinaire, hein. Et comme l'étaient, je pense, tous les chefs de guerre, quelle que soit l'époque, mais surtout...
Oui, on est au XIIe siècle.
On est au XIIe siècle, et donc je pense que c'était l'époque des croisades aussi.
Oui,
et
bien sûr.
Les croisés, c'est pas
très grande violence.
Très grande violence. Mais là, c'est vrai que lorsqu'on voit que cet homme poussait, comme vous l'avez dit, ces dizaines de milliers de cavaliers vers l'ouest ou vers l'est, vers la Chine, quand ils arrivaient quelque part... il devait aller vite et taper très fort. Sinon, il s'enlisait. Donc c'était une guerre éclair, une guerre foudroyante, et où effectivement, d'abord, on ne pouvait pas faire de prisonniers, parce que faire des prisonniers, c'était alourdir un peu plus la logistique, les mettre quelque part, ou alors les enchaîner. Et donc les nomades et les guerriers de Gengis Khan étaient toujours à cheval. Hein, donc il fallait avancer sans cesse, ne jamais s'arrêter... Et partout où on passait, il fallait piller, brûler, tuer pour faire peur et pour faire en sorte que la population des survivants, car évidemment il y avait beaucoup de survivants aussi, heureusement, sinon il n'y aurait plus de population en Asie centrale, il fallait faire en sorte que ces gens-là ensuite respectent le pouvoir mongol. Et c'est là évidemment où le bât blessait, parce qu'une fois que les Mongols avaient pillé, brûlé une ville et qu'ils repartaient piller et brûler une autre ville à 300 ou 500 kilomètres, bon, ben...
Il y a des risques d'éclatement permanent, bien entendu.
Des risques d'éclatement permanent. Et puis, vous savez, l'herbe, elle repousse. Une fois qu'on la coupe, heureusement, l'herbe repousse.
Ce qui est frappant avec, avec ce Temüçin, qui va devenir Gengis Khan, le plus grand des Khans, le plus grand des chefs, c'est cette très grande capacité qu'il a à s'assurer de la fidélité d'un certain nombre de lieutenants. Et ça, il le fait en se montrant tout simplement généreux dans la répartition des butins.
Parce que c'était un grand pragmatique. On l'a dit, à l'époque où il naît, son père a réussi à fédérer quelques hordes, mais à côté des quelques hordes que Yesugei a fédérées, il y avait d'autres tribus mongoles qui étaient indépendantes. Il y avait d'autres rois qui disputaient à Yesugei le pouvoir de diriger les tribus. Et donc Gengis Khan a très vite pris conscience, et je pense qu'il l'a fait en prenant modèle sur la Chine, hein, puisqu'il faut pas oublier que les Mongols, ce sont des nomades, on l'a dit, et à côté de ce peuple de nomades dans la steppe, qui vit dans des conditions quand même de dénuement importantes, hein, qui sont des chasseurs-cueilleurs et éleveurs, avec une activité pastorale, et puis des guerriers, il y a le plus grand empire sédentaire,
les Song,
qui est l'empire chinois, des Song, qui effectivement a été obligé de se replier, lui, vers le sud, parce qu'une autre tribu, les Durchets, les Chin, ont pris le pouvoir à Pékin, Chine du Nord, et ont constitué un empire sédentaire, avec une population Han qui est restée sur place.
C'est comme s'il y avait un écran entre la vieille dynastie Song à bout de souffle, qui possède tous les ports marchands tellement riches de la Chine du Sud, et puis les hordes mongoles. Il faut d'abord passer par la Chine du Nord.
Hein. Et bien sûr, parce que finalement, l'histoire le montre, les grands empires sédentaires ont toujours eu maille à partir avec les empires nomades et avec les nomades qui font pression sur les empires sédentaires. Parce que les empires sédentaires sont des empires où la population est très nombreuse. Donc plus on est nombreux, plus il faut des armées pour défendre la société.
Tout ça est lourd,
il faut donner à manger aux gens, etc. Donc ça complexifie énormément l'organisation sociale. Ça affaiblit sur le plan militaire l'empire sédentaire et ça permet aux guerriers nomades de donner des coups de boutoir dans les empires sédentaires et parfois, et à ce moment-là, Gengis Khan, évidemment, y a réussi à remplacer le pouvoir sédentaire par un pouvoir nomade qui essaie de se sédentariser en sachant qu'un nomade a beaucoup de mal à se sédentariser parce que la condition de vie d'un sédentaire et celle d'un nomade sont deux mondes entièrement différents et on peut le dire totalement antagonistes.
Alors je le disais, le but ultime de Gengis Khan, c'était cette Perse qui était à l'origine de toutes les richesses, d'une certaine manière, la Perse marchande.
C'était la Perse marchande et Gengis Khan, ça signifie empereur universel et également en mongol, empereur océanique. Océanique parce que Gengis Khan prétendait régner entre les deux océans, la mer de Chine à l'est et la mer Méditerranée à l'ouest, dont on connaissait l'existence par la route de la soie, puisque c'était l'aboutissement de la route de la soie vers l'Europe, et au contraire le départ des marchandises de l'Europe qui venaient en Chine par l'intermédiaire de ce grand cordon ombilical qui reliait l'Est et l'Ouest. Et donc Gengis Khan avait cette volonté de régner, comme on dit, entre les deux mers, empereur océanique, et donc après avoir envahi la Perse, il a envoyé ses guerriers jusqu'à la mer Noire. À l'époque, on pensait que la mer Noire, c'était la Méditerranée. Et donc, les Mongols sont arrivés jusqu'en Crimée. Et d'ailleurs, il y a des populations, ce qu'on dit les Tatars de Crimée, sont des populations d'origine mongole qui sont arrivées en Crimée.
Et qui n'en sont plus reparties.
Et qui n'en sont plus reparties, d'ailleurs. Ce qui, d'ailleurs, pose un problème aujourd'hui aux Russes et à Vladimir Poutine.
Bien sûr, oui.
C'est la seule minorité en Crimée qui est hostile au pouvoir des Russes, sachant que la Crimée est un territoire qui est plutôt un territoire russe, comme chacun sait.
Alors cette extension, cette espèce de longue pérégrination ne va pas sans de graves soucis, bien entendu. Vous le disiez tout à l'heure, il faut nourrir ces gens, il faut les tenir surtout. Et puis plus on s'éloigne de ces bases, et plus ça grogne quand même. Et un peu à la manière d'Alexandre, dont les généraux ne voulaient plus suivre les destinées, on a un peu le même phénomène avec Gengis Khan. Ses propres lieutenants finissent par se lasser.
Il y a ça, et bien entendu, et puis les problèmes tout simplement logistiques. Car plus on va loin de ses bases pour faire la guerre, c'était d'ailleurs le cas de l'armée allemande en Afrique du Nord, hein, avec les Rommel qui n'avaient plus d'essence lorsqu'il arrivait à travers la Libye et l'Égypte, quand les Mongols allaient au-delà de la Perse, qu'ils arrivaient en Syrie, qu'ils allaient à Bagdad et qu'ils continuaient à avancer, il fallait assurer évidemment le ravitaillement des chevaux, car un Mongol sans cheval n'existe pas.
Eh oui.
C'est un empire qui a été conquis à cheval.
C'est presque un être composé de deux, d'un homme et d'un animal. Oui, ce sont des centaures.
Ils sont capables de rester à cheval pendant presque 24 heures sans descendre de cheval. Ils épuisent leurs chevaux et ensuite il faut changer de chevaux, comme aujourd'hui dans les rallyes équestres. Et donc ça suppose une énorme logistique avec des chariots, avec des troupeaux qui avancent pour donner à manger ensuite, donc qu'on va tuer pour donner à manger des moutons ou des chèvres aux soldats, et ainsi de suite.
Ces guerriers nomades sont d'une violence extrême, on l'a compris, ce sont des guerriers d'une rudesse folle. On comprend qu'ils puissent être dangereux pour des vieux empires comme la Chine de l'époque, etc., qui en plus est un empire à bout de souffle au moment de la fin des Song. Mais en même temps, on a un peu du mal à imaginer que ces sauvages, pardonnez-moi l'expression avec de grands guillemets, mais que ces gens très peu structurés puissent venir à bout de grandes et millénaires structures comme celle de la Chine ou de la Perse, a fortiori. Quelles étaient les structures politiques de cette Mongolie de l'époque? Est-ce qu'il y avait un conseil? Est-ce qu'il y avait
Un système de type assemblée électorale qu'on appelle le Kurultai et qui a permis d'ailleurs à Gengis Khan de se faire élire chef des tribus mongoles par acclamation, mais néanmoins en présence des divers chefs mongols. Mais ensuite, ce qui manquait cruellement aux Mongols, c'était une structure de pouvoir politique et administratif, parce que l'important lorsque l'on conquiert et qu'on domine un territoire, c'est de pouvoir par exemple lever des impôts auprès de la population. Et donc construire un empire uniquement par l'épée, uniquement par la guerre, c'est forcément quelque chose qui ne peut pas tenir longtemps.
C'est éphémère.
C'est obligatoirement éphémère.
C'est spectaculaire au moment où ça a lieu. C'est pour ça que Gengis Khan va réussir à créer le plus grand de tous les empires de l'histoire humaine. C'est quand même extraordinaire. Mais en même temps, ça ne peut pas durer.
Ça ne peut pas durer, ça ne tient pas. Parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale.
Et c'est tout le problème de la suite de Gengis Khan.
C'est la suite de Gengis Khan. D'abord, les populations que vous avez asservies, elles acceptent pas d'être. C'est un peu comme pour l'Empire romain. Hein, toutes les populations par où qui étaient soumises par les Romains.
Elles essayaient de retrouver leur identité, bien sûr.
Elles essayaient de ne pas payer l'impôt.
Oui, bien sûr.
Dès que les Romains avaient le dos tourné ou les Mongols, chacun repartait évacué à ses occupations. Donc, c'est extrêmement difficile de maintenir par la force un pouvoir qui, évidemment, ne suscite pas l'adhésion, forcément.
Hein. Surtout que l'administration mongole n'a rien à voir avec l'administration romaine.
Hein, en plus, l'administration mongole était, disons-le, pratiquement inexistante. Même si, ensuite, à la fin de sa vie, Gengis Khan, qui avait pris des conseils auprès des Chinois, et en particulier, il avait fait capturer à Pékin un moine, un grand sage taoïste, qui est devenu son conseiller stratégique, comme une espèce de trésor vivant, qui conseillait d'ailleurs les Chines à l'époque, qui eux-mêmes donc étaient les Djurchets, donc des Mongols sédentarisés, qui faisaient appel à des Han pour les aider justement à dominer un peu la population qui restait majoritairement Han dans le nord de la Chine. Et donc il a pris comme ça des conseillers pour essayer de monter une administration, de prélever de l'impôt, mais malheureusement il n'a pas eu le temps de mettre ça en place.
Finalement, le
seul... heureusement peut-être.
Ou heureusement, je crois qu'on peut pouvoir dire heureusement. Ouais. Quand on voit ce qu'il a fait des grandes bibliothèques perses, notamment, ça donne pas envie de lui donner les clés du pouvoir. Mais quand il arrive en Chine, il va là en revanche faire souche. Ce sera la dynastie des Yuan, le fameux Kublai Khan dont on parle toujours, hein, qui est celui qui est censé accueillir Marco Polo, son oncle et son père, et le descendant de Gengis Khan.
Absolument, parce qu'à un moment donné, les Chines vont partir, vont être chassés du pouvoir par les Mongols et donc par les descendants de Gengis Khan. Et à ce moment-là, Kubilai, le Khan Kubilai, qui reçoit, qui est celui qui est censé, l'empereur, qui est censé recevoir
Marco Polo
et ses oncles avant lui, avant Marco Polo, était un Mongol. Et les Mongols ont régné sur la Chine, la dynastie des Yuan, qui a été une dynastie brillante, avec des grands peintres, des grands écrivains. Une volonté forcenée de la part des Mongols de se faire pardonner le fait qu'ils étaient Mongols.
D'avoir l'air plus chinois que des Chinois.
Plus chinois que des Chinois, un peu comme les Mandchous le feront quelques siècles plus tard. Et donc la Chine de Mongols va être une très grande Chine, même si, on peut le dire à ce moment-là, les Mongols épousent les idées chinoises, la culture chinoise, la littérature chinoise et la peinture chinoise.
Alors nous avons énormément de questions qui nous arrivent via Twitter notamment, José Fraîche. Et puis j'aimerais que, après ces grands aperçus géostratégiques, nous en revenions aux êtres humains eux-mêmes et à la famille de Gengis Khan.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'empereur universel Gengis Khan, c'est l'homme qui nous intéresse cet après-midi sur Europe 1. Pour nous en parler, Franck Ferrand, vous recevez José Fraîche, écrivain et romancier spécialiste de la Chine et auteur de Gengis Khan, l'homme qui aimait le vent, paru chez Ixo il y a quelques jours maintenant. Et c'est un homme qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, Franck.
Et on attend le deuxième tome. Pour ceux qui auront fini la lecture de la jeunesse de Gengis Khan, arrivera Gengis Khan le conquérant, donc au mois de janvier prochain.
Le 21. Fraîche,
voilà. Effectivement, beaucoup de questions. Alors, on me pose plusieurs questions sur la fameuse série Marco Polo. Alors, je pense qu'il s'agit de la toute nouvelle série que je n'ai pas vue. Moi, j'ai vu l'ancien feuilleton qui était très bien fait dans les années 80. Dans les deux cas, de toute façon, on est dans la vulgate, hein, il faut le dire. On reprend la grande légende de Marco Polo, donc on ne va pas entrer dans tous les détails de ce qui est vrai ou pas vrai. C'est d'ailleurs très difficile de le dire. Comment Gengis Khan a-t-il pu lever une telle armée dans un pays désertique, nous demande Jean-Marc. Il a d'abord agrégé des hordes, c'est surtout ça. En fait, hein, José Fraîche.
Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était certes désertique par rapport à la Chine, hein, parce qu'on peut dire que la Chine, à l'époque, avait plusieurs dizaines de millions d'habitants, déjà. Hein. Mais en admettant qu'en Mongolie, à l'époque, il y en avait déjà 1 million ou 1,5 million, 90% de ces 1,5 million étaient des guerriers.
Mais c'est ça, voilà.
Les gens
Tout
montaient
le monde
à cheval.
Est guerrier, quasiment.
À 5 ans, un Mongol monte à cheval. À 6 ans, son père lui apprend à tirer à l'arc et à manier l'épée. Et tout le monde devient un guerrier. Et les femmes s'occupent des troupeaux.
Et justement, Gengis Khan est mort en 1227. On est à peu près sûr de cette date-là. Mais on ne sait pas en quelle année il est né. Vous le faites naître vers 1165, vous?
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ça amène à parler des sources.
Mais voilà, bien sûr.
De l'histoire de Gengis Khan. Un grand historien français qui était le grand spécialiste de Gengis Khan, Louis Ambis, qui était professeur au Collège de France et qui parlait le mongol ancien et qui avait vraiment décortiqué tous les textes mongols, hein, en particulier ce qu'on appelle l'histoire secrète des Mongols, lui prétend que Gengis Khan est né en 1155.
Ah oui, donc d'autres, il aurait été beaucoup plus vieux.
Il serait mort plus vieux. D'autres disent 1162. Je pense que c'est dans cette fourchette-là, en tout cas, que Temujin est venu au monde.
Belle longévité, entre parenthèses, pour quelqu'un qui passe son temps à combattre et dans les pires circonstances.
Même si à la fin de sa vie, il avait des rhumatismes, il avait de l'arthrose et qu'il est mort à la suite d'une chute de cheval.
Les sources sont chinoises, persanes?
Alors, il y a des sources mongoles qui, évidemment, tiennent de la géographie. Hein, oui. C'est-à-dire, ce sont des sources, des plaidoyers pro-domo qui déroule la saga de Gengis Khan.
Une sorte de grand éloge.
Avec en magnifiant ses victoires, en donnant probablement des chiffres exagérés un peu dans toutes ses conquêtes. Il y a des sources persanes qui sont évidemment beaucoup plus à charge. Et puis il y a également les Chinois, les historiens chinois, puisque en Chine il y a une grande tradition historique. Les empereurs chinois ont des analystes, des gens qui rédigent l'histoire au fur et à mesure qu'elle se fait autour d'eux. Et donc Gengis Khan apparaît à ce moment-là dans les sources chinoises. Et donc il y a comme ça un faisceau de textes anciens qui nous permettent de reconstituer d'une manière assez précise cette immense épopée que fut celle du premier empereur des Mongols.
On nous demande toujours via Twitter quelle était la religion ou les croyances de Temujin.
Alors Temujin croyait dans un dieu unique, les Mongols. C'est une religion primitive.
Donc une religion monothéiste.
Une religion monothéiste, dans un contexte chamanique, qui est également resté extrêmement vivace. Mais ce dieu unique était considéré comme le créateur de l'univers. Et tous les dieux secondaires et les esprits par lesquels pour lesquels on faisait appel aux chamans pour entrer en discussion avec eux, étaient soumis à ce dieu unique. Et donc, on peut dire d'une certaine façon que les Mongols, à l'époque de Gengis Khan, étaient déjà de religion monothéiste.
Et qui était Tamerlan par rapport à lui, nous
Alors, Tamerlan viendra...
Un successeur, siècles,
Un successeur, et lui qui est un Turc. Hein, c'est une épopée turque, sachant que les Mongols sont un peuple d'origine turque, hein, déjà. Mais l'empire de Tamerlan sera beaucoup moins étendu que celui de Gengis Khan, même si les origines de turques sont communes à Gengis Khan et à Tamerlan.
Vous avez d'ailleurs présenté un très bel album aux éditions de La Flandonnière qui s'appelle La Horde d'Or, les héritiers de Gengis Khan, avec sur des textes de Marie Favreau, des photographies de Jacques Raymond qui nous montrent ces régions désertiques, justement, ces espèces de régions quasiment lunaires, assez étonnantes. Hubert nous demande s'il est vrai qu'on ne sait pas où se trouve la sépulture de Gengis Khan.
Exact. On sait que Gengis Khan a été enterré en grande pompe, que son cortège, parce qu'il est mort pas loin de la Chine, et il a été transporté vers sa région d'origine sur un millier de kilomètres. La tradition veut que lorsque le cortège croisait des voyageurs, on les tuait, parce qu'on ne voulait pas qu'on sache que l'empereur était mort tant qu'on n'avait pas organisé sa succession, ce qui était déjà arrivé d'ailleurs pour le premier empereur de Chine, pour Qin Shi Huangdi. Et donc ensuite, il a été inhumé dans sa région d'origine. On ne sait pas où exactement. Et il y a plusieurs équipes d'archéologues qui espèrent toujours tomber sur le
tombeau. Parce qu'il devait y avoir un trésor phénoménal.
Il est probable que soit il y a un trésor phénoménal, alors peut-être digne de celui de Toutankhamon,
c'est ça, hein,
ou de l'empereur chinois, du premier empereur chinois, ou au contraire, peut-être que Gengis Khan a-t-il plutôt préféré se faire inhumer et que ses cendres soient enterrées au pied d'un arbre. Ça, franchement, je pense que tant qu'on n'a pas trouvé son tombeau, c'est extrêmement difficile de se prononcer.
Une chose est sûre, on n'a pas tellement envie d'aller se recueillir sur sa tombe, parce que, encore une fois, et même s'il faut faire la part d'une époque et de mœurs très différentes, c'était un véritable bourreau, hein, un fléau, on peut le dire, quand il arrivait dans une région ou aux portes d'une ville, c'était des massacres en perspective. Puisque nous parlons de la vie du personnage lui-même, un mot de cette Berthe, justement, de cette épouse. Ils ont été fiancés très jeunes.
Ils ont été fiancés très jeunes, vers l'âge de 12 ans. C'est le père de Gengis Khan, Yesugei, qui avait choisi cette jeune femme, cette jeune fille à l'époque, puisqu'elle avait le même âge que Temujin, qui était la fille d'un chef de tribu. Donc ça permettait de faire l'alliance avec les tribus. Et ils se sont fiancés très jeunes, ils se sont mariés très jeunes.
Mais sauf que le premier enfant de Berthe ne sera pas de
Elle a Temujin. Elle a été enlevée effectivement par le chef d'une tribu adverse. Et lorsqu'il l'a récupérée, lorsqu'il était allé la chercher, vous l'avez raconté, elle était enceinte. On ne peut pas savoir exactement si son père, le père du fils qu'elle a eu, était Gengis Khan ou le fameux chef de tribu qu'il avait enlevé. En tout cas, Gengis Khan a toujours considéré que Jochi, puisque c'était cet enfant, était le sien, même si le bruit courait que c'était pas forcément lui le père.
Ce qu'il faut dire, José Fraîche, c'est que votre récit nous plonge au cœur de la steppe, qu'on a l'impression d'y être. Vous avez pris votre temps pour raconter cette belle épopée, et la jeunesse de celui qui va devenir le terrible conquérant nous est narrée, j'allais dire, par le menu. Et ça, c'est extrêmement agréable. Gengis Khan, l'homme qui aimait le vent, c'est édité chez Ixo. Merci beaucoup.
Dans un instant, Franck vous répondra à la question de Benjamin qui veut en savoir plus sur l'origine des liens entre la France et les chrétiens d'Orient.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est une question à la fois historique et à la fois d'actualité. Franck, c'est Benjamin qui vous l'envoie sur le site europe1.fr. Je vous la lis. Pourquoi la France s'engage-t-elle à protéger les chrétiens d'Orient ?
On aimerait que la France protège les chrétiens d'Orient. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. La question est trop importante, trop vaste pour qu'on la traite en deux minutes, évidemment. Et je vous promets que nous allons bientôt faire une émission spéciale sur le sujet. On en avait déjà fait une, mais on va y revenir. Il faudrait remonter, bien sûr, aux royaumes latins médiévaux. Il faudrait parler des des liens très proches qu'ont établi le Premier et le Second Empire, la Troisième République avec un certain nombre de chrétiens d'Orient. La réponse précise à la question de Benjamin, ce serait plutôt l'alliance que nous nouons, quand je dis nous, le Royaume de France, François Ier en l'occurrence, avec Soliman le Magnifique. D'ailleurs, plutôt que François Ier, c'est sa mère, Louise de Savoie, hein, qui va profiter de la captivité du roi en 1525-1526 pour nouer cette première alliance. Et dans les accords de l'époque, il était prévu que nous protégions, que la France protège les chrétiens d'Orient. Mais ce n'est qu'un aperçu de la réponse.